Les séminaires du Collège de France.
On a la chance là d'avoir pour le dernier séminaire Eric van den Heijden, qui est professeur au Courant Institute. Eric donc est avant tout un mathématicien impliqué qui a travaillé sur les problématiques de simulation stochastique, notamment pour des applications en physique, et puis a bougé vers le machine learning et à l'origine de nombre de techniques assez fondamentales pour les problématiques de génération. D'abord, les techniques de normalizing flow dont je vous ai parlé. Alors, c'est intéressant parce que ce sont des techniques qui ont émergé avec, en parallèle avec différentes intuitions, mais là, Eric a véritablement apporté les formalisations mathématiques de ces approches. Et puis, plus récemment, la généralisation des algorithmes de score diffusion, ce qu'on appelle maintenant les algorithmes d'interpolation stochastique ou de matching flow, qui permettent de faire du transport, comme il l'expliquera, non pas vers un bruit blanc, mais vers n'importe quelle distribution, ce qui a beaucoup d'applications, notamment météorologie, climatologie, dont je parlais. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette conférence, et tu as la parole.
Merci beaucoup, Stéphane, de m'accueillir ici. Merci à vous tous de venir. Alors, ça fait très longtemps que je n'ai plus donné un talk en français, donc on va voir comment ça va se passer. Et je vous préviens déjà que mes transparents vont commencer en français, mais à un moment donné, ils vont repartir un petit peu vers l'anglais parce que je n'ai pas eu le temps de tous les changer. Ok. Alors, ce que je voudrais discuter un petit peu aujourd'hui, comme l'a dit Stéphane, c'est ces problèmes de... Oups, c'est pas celui-là que je voulais prendre. C'est pas celui-là non plus. Où est la lumière? Là. Ok. Donc, je voudrais discuter un petit peu comment faire des générations de données avec des flots et des diffusions, ce qui est en fait le cours de Stéphane. Donc, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je vais pouvoir me reposer parce que ça a déjà été discuté. Mais je vais présenter peut-être un point de vue un petit peu différent qui est basé sur ces interpolants stochastiques. Et ces interpolants stochastiques, c'est une classe de méthodes qui ont été introduites avec Michael Alberg quand il était étudiant à la New York University. Et puis Nick Boffy, qui était un postdoctorat, est venu assez rapidement. Et puis il y a toute une série de collaborateurs qui sont tous des collaborateurs de l'Institut Courant à New York qui ont participé au travail que je vais vous montrer. Alors je pense que sans doute les premiers transparents sont inutiles dans cette classe parce que vous avez vu tous, mais je vais quand même en discuter un petit peu, comme ça on est tous sur la même page, parce que je n'ai pas assisté à tous les cours. Mais comme vous le savez, il y a eu une explosion récemment dans les capacités des modèles génératifs qui sont basés sur l'intelligence artificielle. On fait maintenant des choses qui étaient complètement impossibles, ou semblaient complètement impossibles il y a juste quelques années, comme par exemple générer des images en dialoguant avec un ordinateur, c'est-à-dire on peut écrire un prompt comme celui-là, et ça crée des images qui sont plus ou moins réalistes. Voilà quelques autres exemples. Ça s'est fait avec Stable Diffusion. Je mets cet exemple-là parce que ça utilise des techniques que je vais discuter après. Ou bien on peut faire... Il y a ces modèles génératifs avec lesquels on peut avoir des conversations assez élaborées, même maintenant sur des problèmes de maths, en fait, qui est un peu hallucinant. Et ça, c'est basé un petit peu sur des architectures différentes, mais récemment, les modèles de diffusion ont été aussi introduits comme une alternative à ces large language models et semblent avoir des capacités qui sont en fait sont plus performantes. Donc, ce que je vais discuter est aussi utile dans ce cas-là. Alors, comment ça se fait en fait? Quel est le point? Qu'est-ce qui a fait qu'on peut faire ce genre de choses? Alors, bien sûr, il y a la capacité des réseaux de neurones qui a été discutée par Stéphane, qui fait qu'on a maintenant des outils qui permettent d'approximer des fonctions en grande dimension, et je vais revenir sur ça tout à la fin du talk. Mais je pense qu'il y a aussi un point de vue qui a été introduit assez récemment, finalement, dans le contexte de l'apprentissage machine, et c'est cette idée que quand on fait de l'apprentissage, comment on dit ça, de l'apprentissage non étiqueté, c'est comme ça qu'on dit, with no label. Il y a une manière d'organiser les données en considérant qu'elles sont tirées ou échantillonnées d'une distribution de probabilités qu'on ne connaît pas. OK? Et donc, en fait, ça, c'est l'hypothèse de travail sur laquelle on est. Et donc, ça permet d'organiser les données en disant, bon, j'ai ces données qui sont, on a les données qui sont là, elles viennent d'une distribution de probabilité. Si on apprend ce que c'est que cette distribution de probabilité d'une manière constructive, c'est-à-dire si on apprend cette distribution de telle manière qu'on peut générer des échantillons de cette distribution, ben on peut générer d'autres données. Et en fait, les modèles dont on va discuter aujourd'hui sont basés sur cette idée. Et la question est comment générer ça. Alors, en petite dimension, deux dimensions, c'est assez facile de voir ce qui se passe. Voilà, il y a une distribution qui est là et il y a des points qui ont été tirés. Et la question est de savoir, est-ce que si je vous donne ces points, vous pouvez estimer la distribution qui est là. Le problème quand on veut faire ça pour des images ou pour des textes, c'est que ces données ne sont pas en deux dimensions. Donc, par exemple, si on voit ici, ça, c'est une collection d'images qui viennent d'une banque de données qui s'appelle CelebA. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut imaginer que chacune de ces images est composée d'un certain nombre de pixels. Chacun de ces pixels a un certain nombre de canaux. Et donc, si vous avez 512 par 512 pixels et disons 40, 50 canaux, la dimension de l'espace dans lequel il faut faire la reconstruction est 512 fois 512 fois le nombre de canaux. Donc, c'est une dimension énorme. Okay? Et donc, chacun des points ici, c'est en fait un point dans cet espace RD avec D qui est très, très grand. Et donc, la question est de savoir comment faire ça. Et c'est bien sûr là que l'apprentissage machine est venu à la rescousse. Et donc, parce que si on essaie de faire ça en petite dimension avec des méthodes classiques, c'est-à-dire, par exemple, en faisant du discrétisation, c'est ce que j'ai trouvé comme traduction pour binning, pour faire, on met dans des boîtes, ou bien si on utilise des noyaux kernel density estimation, donc des noyaux pour estimer la densité, ça ce sont des méthodes qui marchent uniquement en petite dimension. Quand je dis petite, ça veut dire 2 ou 3, pas 1 million. Et donc récemment, il y a eu ces méthodes qui ont été introduites, qui sont basées sur l'apprentissage machine et qui ont permis justement de faire toutes ces progrès très très rapides depuis vraiment les débuts en 2012 avec les Boltzmann machines jusqu'à maintenant c'est diffusion où on a des images qui sont assez réalistes, okay? Et vraiment le progrès et donc la percée majeure qu'il y a eu dans ce domaine, c'est en fait de considérer ce problème comme un problème de transport de mesures. En fait, pratiquement toutes les méthodes récentes sont basées sur cette idée de transport de mesures. Et donc c'est ça que je vais vous expliquer aujourd'hui un petit peu. Alors, l'idée de transport de mesure est en fait assez simple, de nouveau au moins conceptuellement. L'idée est la suivante, c'est on essaye de construire une équation, donc un système dynamique qui est gouverné par une équation aux dérivées ordinaires ou une équation aux dérivées stochastiques et qui a la propriété suivante, que si on prend une condition initiale pour cette équation qui est un échantillon d'une distribution simple, par exemple une gaussienne, mais ça ne doit pas nécessairement être une gaussienne, ça pourrait être n'importe quoi qui est facile à échantillonner, et on propage cette condition initiale via l'équation, au temps t égale 1, donc à un temps fixé, on veut que cet échantillon ait été transformé en échantillon de la mesure cible. Ok ? Et bon, c'est donc... Cette approche, c'est vraiment un transport dynamique de mesures, donc c'est un vieux problème avec beaucoup de résultats de Benamou, Brenier, Villani, etc., plein de gens fameux qui ont travaillé sur ça. Et bien sûr, si on arrive à construire une EDO, une EDS de ce type-là, c'est bien adapté pour la génération, parce qu'il suffit de tirer un échantillon depuis la base, qui est assez facile, par définition. On peut propager... En intégrant l'ODE ou la SDE, donc ce qui est un problème qui ne peut pas être fait analytiquement, mais il y a des méthodes numériques qui sont très très bien, qu'on connaît bien pour faire ce genre de choses, et on obtient un échantillon de la cible. Et donc en fait, voilà, sur une autre banque de données, ce qui se passe si on part d'images qui sont juste du bruit, donc tous les pixels sont tirés de manière aléatoire, et en fait on a entraîné cette idée, donc en fait c'est vraiment le drift ici, c'est ça la question qui va se poser, c'est pour obtenir qu'à la fin de la propagation en temps égal 1, on ait des nouvelles images de fleurs. Okay? Et bien sûr, la question qui est non triviale, c'est comment est-ce qu'on peut obtenir le champ de vitesse dans cette équation. Okay? On sait, il y a des théorèmes généraux qui disent qu'il existe avec certaines conditions sur les mesures de base et les mesures cibles, mais ce qu'on voudrait faire, c'est vraiment obtenir des algorithmes qui permettent de les construire en pratique. Okay? Et si on veut utiliser le machine learning, ça veut dire quelque chose d'assez simple, ça veut dire qu'il faut essayer de trouver un principe variationnel pour cette fonction qui soit traitable. Traitable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut être estimé en pratique, typiquement avec des échantillons. Parce que si c'est le cas, on peut utiliser les principes de l'apprentissage machine, ça veut dire qu'on utilise alors un réseau de neurones profonds pour représenter la fonction complexe, dans ce cas-ci c'est le champ de vitesse. On a ce principe variationnel, et donc on considère ça comme un objectif, comme une fonction de perte pour les, donc loss, fonction de perte pour les paramètres du réseau. Et puis si on peut estimer cette perte et son gradient de manière empirique sur les données d'entraînement, on peut optimiser les paramètres du réseau simplement en faisant de la descente de gradient stochastique. Okay, ça, c'est l'idée de base. Et je pense que ça a été discuté par Stéphane dans la classe en grand détail. Et alors, bon, a priori, c'est pas clair qu'il soit possible de faire ça, mais comme Stéphane l'a aussi discuté, il y a eu, de nouveau, une percée majeure dans ce contexte qui a été ces score-based diffusion models, ou que j'ai traduit comme modèle de diffusion basé sur le score. Je ne sais pas si c'est vraiment où, en fait, l'idée qu'ils avaient faite, c'était basée sur, en fait, des idées qui étaient un petit peu plus anciennes, même, les références sont là, qui étaient ces idées de bruitage-débruitage, dans laquelle l'idée, c'était simplement de prendre des échantillons, par exemple, des photos d'animaux, de chiens, disons, et simplement de les bruiter, donc de les transformer en quelque chose qui est juste du bruit, ce qui est assez facile à faire, parce qu'il suffit d'enlever le signal. Mais simplement, après ça, d'essayer de faire du débruitage, et la réalisation, ça a été que ce débruitage peut être effectué si on apprend le score. Parce que si on prend une équation, une SDE, donc forward SDE, donc c'est l'EDS qui va en avant dans le temps, on peut toujours retourner le temps, on peut renverser le temps, si on ajoute dans l'équation ce terme de score. Okay? La percée majeure a été de formuler le problème de cette manière-là et se rendre compte qu'il existait des résultats précédents qui permettent d'estimer ce score si on a des données en utilisant un principe variationnel. Je vais revenir sur ça à la fin du talk, mais je vais essentiellement vous présenter maintenant la généralisation de ces idées qu'on a fait avec Michael et Nick. Qui est assez similaire, mais qui a un petit peu plus de flexibilité. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Okay? Et donc, ça, c'est ces interpolants stochastiques. Je vais passer quelques transparents, essayer de vous expliquer ce qu'ils font, et puis je vais vous donner quelques applications. Alors, les interpolants stochastiques, c'est assez facile, en fait. C'est introduire un processus qui est un processus qui dépend du temps et qui est construit simplement en faisant une superposition linéaire. On pourrait faire non linéaire, mais pour la simplicité, faisons ça comme ça, dans lequel on prend un échantillon de la mesure de base, un échantillon de la mesure cible et un échantillon gaussien qui est une variable latente que pour l'instant vous pouvez oublier mais qui va jouer un rôle dans quelques transparents. Et on les multiplie par des coefficients qui dépendent du temps, qui sont suffisamment réguliers et qui satisfont des conditions au bord, c'est-à-dire à t égale 0 et 1, qui garantissent que si on évalue cet interpolant à temps t égale 0, on a x0 et si on évalue à temps t égale 1, on a un échantillon x1. C'est-à-dire un échantillon de la base ou de la cible. Okay? Et bien sûr, pour tout T, il y a quelque chose qui est entre les deux. Bon, ça a l'air un petit peu obscur, ça, mais par exemple, on peut simplement prendre alpha T, 1 moins T, bêta T égale T, et gamma égale à 0, ou bien cette fonction-là qui est aussi 0 au bord. Okay? Et les échantillons, et c'est très important, ils peuvent être couplés, mais la manière la plus simple, ce serait de les découpler, c'est-à-dire de tirer x0 et x1 indépendamment de la mesure de base et de la mesure cible. Pour vous expliquer ça, j'ai quelques petits... je vais vous montrer ça, c'est toujours plus facile de comprendre avec des images. Imaginons que ça, ce soit la mesure de base, et ça, c'est la mesure cible, les lignes de niveau. Okay. Alors, ce qu'on peut faire, c'est... Imaginons qu'on ait des échantillons. Voilà les échantillons. Ce que fait le IT, c'est tirer un échantillon... Ici, tirer un échantillon là et les relier, si on prend cet interpolant là et on prend gamma égale à 0, simplement par une ligne. Oui, c'est. OK. Et donc, et voilà, elles se croisent dans tous les sens, elles font des choses comme ça. C'est plus facile peut-être de voir ça avec un film. Voilà ce que les échantillons font. Si on part de si on, donc ce que vous voyez ici, c'est un film sur, on regarde IT qui va, avec T qui va de 0 à 1 dans un sens et dans l'autre. Donc voilà ces échantillons qui vont d'un endroit à un autre. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr, pourquoi est-ce que c'est relié au transport de mesure ? Je peux en fait utiliser ça. C'est que si on a introduit des échantillons comme ça, qu'on a à sa disposition, en fait, parce qu'on peut les échantillonner si on a des échantillons de mu0 et de mu1, on a construit de manière effective un transport de mesure. Donc, je ne sais pas pourquoi les deux films ne vont pas ensemble, ils devraient le faire, mais vous voyez que là, on regarde le mouvement des échantillons, mais on peut aussi regarder ce qui se passe avec la loi de cet interpolant. Et ce que la loi fait, c'est une interpolation dans l'espace des mesures entre la mesure cible et la mesure de base. OK. Alors, ça, c'est des exemples en petite dimension, mais on peut faire ça aussi en grande dimension, et ça me permet de faire quelques remarques qui sont assez utiles. C'est que, contrairement au score-based diffusion, il n'y a pas de diffusion ici, jusqu'à présent. Il y a juste cet interpolant qui, en fait, est un processus stochastique, mais qui est lisse en temps. OK, peut-être pas au bord, mais OK, ça, c'est un détail. Et ça peut être fait en interpolant entre des mesures arbitraires. Si on veut faire de l'échantillonnage à la fin, il faudrait que celle-là soit simple, mais elle pourrait être n'importe quoi. Par exemple, voici ce qui se passe si on dit que la mesure de base est la mesure cible. Voici la trajectoire le long d'un interpolant où ça, c'est un échantillon de fleurs, et ça, c'est un autre échantillon de fleurs, et ça, c'est comme ça qu'il se transforme. OK ? Et il y a une autre petite remarque à faire qui est peut-être utile, c'est que en choisissant ces coefficients alpha, bêta et gamma, on peut obtenir des processus différents. Donc, par exemple, s'il n'y a pas de variable, si ce truc-là est égal à 0 et on prend juste ceci, c'est l'image que je vous ai montrée de manière précédente. Si on ajoute un petit peu de cette variable latente, on voit qu'on ajoute du bruit au milieu et puis on l'enlève pour retourner vers l'échantillon de la cible. Et on peut imaginer quelque chose qui est extrême dans lequel on prend l'échantillon, on le tourne en bruit complètement et puis on retourne le bruit dans un échantillon. Okay? Et je vais vous montrer en fait des applications où cette flexibilité est utile. Alors, il y a un théorème assez facile qu'on peut prouver, c'est que la loi de cet interpolant est la même que la loi de la solution d'une EDE, qui est donc simplement l'équation que j'ai écrite ici, qui doit être résolue avec des conditions initiales qui sont tirées de la base, dans lesquelles la vitesse est donnée par une espérance conditionnelle. Et cette espérance conditionnelle est simplement l'espérance conditionnelle de la vitesse de l'interpolant, donc sa dérivée par rapport au temps, qui existe, puisque je vous ai dit que c'est un processus qui est lisse, conditionnée sur le fait que AT soit égal à X. Alors, il y a un petit schéma ici qui explique de nouveau ce que c'est. Donc, ça, c'est la mesure quand elle bouge. Alors, si on regarde ce point X ici, les interpolants qui passent par X, ils ont des vitesses qui sont montrées en rouge et qui sont aléatoires parce qu'ils peuvent se croiser. Mais si on prend la moyenne conditionnelle, c'est-à-dire la moyenne de cet objet-là pour tous les interpolants qui passent à ce point-là, on obtient la flèche noire qui est précisément ce B. OK ? Et donc, c'est ce B-là qu'on va essayer d'utiliser. Et pourquoi est-ce que c'est facile ? On va discuter de ça plus dans une minute, mais c'est que cette espérance conditionnelle, qui a priori est un objet assez compliqué à calculer, en fait, a une formation variationnelle en L2 qui fait qu'on peut simplement l'obtenir en minimisant une espérance non conditionnelle qui est simplement le carré de la différence entre un B hat et la vitesse de l'interpolant. Donc, si on minimise cet objet-là sur tous les B hat dans une classe appropriée, suffisamment riche, le minimiseur est l'espérance conditionnelle dont on a besoin. OK. Voilà la preuve de ce. C'est essentiellement utiliser la définition de l'espérance conditionnelle et chain rule. Je ne sais plus comment on dit chain rule. Donc, on prend une fonction test. La mesure de la distribution, donc la mesure de IT, c'est simplement, par définition, celle qui permet de prendre des espérances de cette fonction sur l'interpolant. Si on prend la dérivée en temps, on utilise, bon, de ce côté-là, on obtient ceci. Et de l'autre côté, on fait la chain rule, et puis on peut utiliser la propriété. Comment on dit ? The tower property, la propriété tour de l'espérance conditionnelle, pour écrire que cet objet-là, c'est l'espérance de l'espérance conditionnelle. On peut toujours mettre une espérance conditionnelle à l'intérieur, et puis représenter l'espérance par via mu. Et donc, ce qu'on voit qui apparaît ici, c'est la forme faible de l'équation de transport pour une mesure dont les caractéristiques sont précisément l'EDE qui est là. Mais essentiellement, c'est la fin de la preuve. Il faut juste vérifier que tous ces objets ont du sens. Et donc, pourquoi est-ce que c'est utile ? C'est parce que ça donne un modèle génératif. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, pour générer l'interpolant, il faut avoir des données des deux côtés, ce qui n'est pas pratique. Mais pour générer des données ici, il suffit de prendre une condition initiale à ce bout-là et la propager par via cette EDE pour obtenir un échantillon de l'autre côté. Donc en fait, voici un autre exemple qui est en une dimension. Si mu0, c'est juste cette gaussienne, de l'autre côté, c'est un mélange de gaussiennes avec trois modes. Si on calcule le B dans ce cas-là, le champ donc de flow line, donc les lignes de flow de la solution de l'ODE, c'est ces lignes blanches. Et donc, si on tire des échantillons de ce côté-ci et on les pousse, on obtient des échantillons de l'autre côté. Donc, c'est un modèle génératif. OK ? C'est pas un modèle génératif qui fait du transport optimal, pas dans le sens de Monge-Ampère en tout cas, parce qu'il fait simplement ce qu'on a décidé en faisant l'interpolation, mais il satisfait un certain nombre de propriétés qui sont intéressantes, comme par exemple, il a une longueur finie en Wasserstein 2. Donc, bon, ça c'est un peu une remarque pour les experts, mais ça garantit certaines propriétés qui sont désirables pour le transport qu'on obtient. OK, donc voilà, on a obtenu un premier modèle génératif. Alors, pourquoi est-ce qu'on a... et alors, bien sûr... Pourquoi est-ce que ça, c'est pratique ? C'est parce que ce problème-là, ou bien on peut le superposer sur tous les temps, c'est-à-dire on peut aussi minimiser cet objectif, ben ça, c'est un objectif qu'on peut estimer en pratique. Parce qu'on a des échantillons de IT, et on peut aussi estimer I dot, et ça, c'est juste une espérance non conditionnelle. Donc, on peut remplacer cette espérance par une espérance empirique sur les données, de manière très facile. Et donc, ça veut dire que si on modélise le B par un gros réseau de neurones, on peut voir ça comme une perte, un loss pour les paramètres de ce réseau de neurones et on peut l'optimiser. Voilà. Donc, on peut faire de l'apprentissage profond. Et tous les exemples que je vais vous montrer après ont été faits en utilisant des réseaux de neurones. Je vais discuter un petit peu ça quand on y arrive. Okay. Il y a quelque chose d'autre qu'on peut faire qui est assez intéressant. C'est la raison pour laquelle il y a cette variable latente qui a été introduite. Si la base était gaussienne et indépendante de la cible, elle n'est pas nécessaire, cette variable latente, mais c'est juste au cas où on fait du couplage et on voudrait avoir cette variable latente. Parce qu'elle permet de faire ça, il y a cette identité de Stein, qui est essentiellement intégration gaussienne par partie, qui donne une expression pour le score en termes d'une espérance conditionnelle de nouveau sur l'interpolant. Et c'est simplement l'espérance conditionnelle de cette variable latente proprement normalisé par le coefficient gamma t, de nouveau au point x. Et donc, ça veut dire que c'est de nouveau le minimiseur d'une fonction objet qu'on peut utiliser. Je vais vous montrer après qu'en fait, il ne faut pas nécessairement... On peut obtenir le s dans certains cas directement du b, donc il ne faut même pas faire deux minimisations, une est suffisante. Mais si on voulait, on pourrait faire ça. Alors, pourquoi est-ce que ça, c'est utile ? Parce qu'on peut faire un petit exercice qui a l'air un petit peu magique au début, mais qui en fait est très très simple, c'est qu'on peut... Donc, je vous ai dit que la mesure de l'interpolant satisfait une équation de transport. L'équation de transport, c'est cette équation-là. Okay, je l'ai écrit au sens fort, parce qu'en général, il y a une densité, mais c'est celle-là. En fait, on peut réécrire, si on connaît le score, on peut réécrire cette équation comme une équation de Fokker-Planck, ou une équation de diffusion, Forward Kolmogorov Equation. Pourquoi ? Parce qu'on peut simplement ajouter une diffusion avec un coefficient de diffusion arbitraire, du moment qu'il soit non négatif, dans le membre de droite, et compensé par un drift dans le membre de gauche. C'est assez facile de voir pourquoi ça marche. C'est parce que le score, c'est le gradient du log de la mesure. Donc le gradient du log, c'est le gradient de la mesure divisé par la mesure. Si on multiplie par la mesure, on obtient le gradient de la mesure, et la divergence du gradient, c'est le laplacien. Donc il y a cette identité-là qu'on peut utiliser, qui fait qu'en fait, dans cette équation, ce terme-là compense exactement ce terme-là. Alors, bien que les EDP sont les mêmes, ça, c'est une équation qu'on peut maintenant échantillonner avec un processus différent, parce que l'équation de cette équation-là, c'est du transport, donc ça, les caractéristiques sont des équations aux dérivées ordinaires, mais ici, les caractéristiques sont des équations aux dérivées stochastiques. Et donc, on obtient une équation de ce type-là, dans laquelle il y a epsilon qui est donné ici et qui peut être varié. Okay. Et celle-là, bien sûr, il faut aller dans une direction du temps. Il y a moyen d'écrire une équation dans l'autre sens, en mettant une antidiffusion ici, mais je ne vais pas discuter ça. Donc ici, on prend une condition de ce côté-là, et de nouveau, on obtient une condition de l'autre côté. Donc, si je veux résumer un petit peu ce qui se passe, de nouveau avec un petit schéma, c'est on construit un interpolant qui permet d'interpoler dans l'espace de mesure de manière qui est facile à échantillonner. Voici trois choix d'interpolation pour aller de cette mixture, de ce mélange de gaussienne à deux modes vers trois modes. On voit là une, on voit là une autre, on voit une autre. C'est trois chemins possibles. Okay. Et pour chacun de ces chemins, on peut soit a posteriori utiliser, donc on peut apprendre le drift et le score, et donc on peut utiliser soit une équation aux dérivées ordinaires, soit une équation aux dérivées stochastiques pour faire l'échantillonnage. Et donc par exemple, si on prend ce chemin-là, c'est ce chemin-ci, ça c'est ce qui se passe avec l'équation aux dérivées ordinaires, et ça c'est avec l'équation aux dérivées stochastiques avec un coefficient de diffusion qui est de plus en plus grand. Et ça c'est la même chose pour les autres chemins. Les lois sont différentes qu'on va de colonne à colonne, mais elles sont les mêmes dans chacune des colonnes. C'est juste qu'on réalise la loi d'une manière différente. Ok ? De nouveau, on peut regarder ça en plus grande dimension. Donc si on prend le même échantillon ici, donc c'est un bruit gaussien qui est le même, et on le passe dans l'ODE, on obtient cette fleur-là. Si on le passe dans la SDE, si on le refaisait de ce bruit-là, ce qu'on a construit ici, c'est un flot de déformorphisme, donc ce serait toujours la même image qu'on obtiendrait là. Si on fait la SDE, il y a une autre source de stochasticité qui n'est pas seulement la condition initiale qui ici est fixée, mais il y a le bruit qu'il y a dans l'équation, et donc si on prend ce bruit, on l'intègre dans la SDE, on obtient une autre fleur. Et si on le refait, on obtient une fleur différente, et si on le fait avec des bruits différents, on obtient des fleurs différentes chaque fois. Ok ? Et donc, plus on met de bruit dans l'EDS, plus on a de la diversité dans les résultats, tandis que pour l'ODE, il faut vraiment échantillonner tout ça pour obtenir toutes les fleurs. Okay? Et ça, c'est une remarque qui a la magie un petit peu de ces réseaux de neurones, et que Stéphane a discuté, je pense, en grand détail. C'est que, de manière intéressante, les fleurs qu'on obtient ici ne sont pas dans la banque de données de départ qui a été utilisée pour l'entraînement, ce qui est assez remarquable. Par exemple, cette fleur-là, on peut regarder quelles sont les fleurs les plus proches dans la banque de données. Alors, définir comment on est proche, ça dépend un peu de la métrique, mais le point est le même, que cette fleur n'est pas dans les banques de données. Okay? Et si vous regardez, vous pouvez voir qu'en fait, cette fleur, ça c'est les fleurs les plus proches, elle a des caractéristiques un petit peu communes, en termes de couleur, etc., mais c'est vraiment une fleur différente. Ok. Alors, pourquoi... Maintenant, on a cet outil qui est assez flexible parce qu'on peut choisir l'interpolant. Je ne vais pas discuter ça beaucoup plus après, mais c'est un problème intéressant, comment choisir l'interpolant. Mais il y a un autre truc, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut choisir entre utiliser une ODE ou une équation dérivée stochastique ou une équation dérivée ordinaire. Okay ? Alors, la raison pour laquelle on voudrait utiliser cette flexibilité, c'est que, bien sûr, toutes les lois qu'on a décrites jusqu'à présent sont les mêmes si la vitesse et le score ont été calculés de manière exacte. Mais en pratique, bien sûr, on ne les connaît pas de manière exacte parce que le nombre de données sur lesquelles on les a entraînées est fini, la capacité des réseaux de neurones est aussi finie et on a fait un entraînement avec une descente de gradient qui n'a peut-être pas convergé complètement. Et donc ça veut dire qu'en pratique, on utilise des scores et des drifts qui sont approximés. Et donc, ça veut dire qu'on peut regarder quelle est la solution de l'équation de Fokker-Planck si on utilise ce drift ou cette vitesse et ce score approximé. Et bien sûr, dans ce cas-là, puisque le score ici est approximé, il n'est plus égal au gradient du log de la solution. L'identité que j'ai utilisée avant n'est plus utilisable. Et donc, on peut simplement se demander quelle est la différence entre la solution de cette équation où on utilise le B et le S qui sont approximés par rapport à la solution exacte. Et il s'avère qu'en utilisant le théorème de Girzanov, on peut calculer ça de manière assez explicite et on obtient quelque chose qui dit qu'en fait, la perte qu'on utilise sur le drift et la perte qu'on utilise sur le score contrôle la divergence de Kullback-Leibler avec des coefficients qui sont une dépendance en epsilon comme celle-ci. C'est-à-dire que mieux on connaît le score, plus de bruit on pourrait mettre dans une certaine mesure. Et ça, c'est simplement dire que si on ne connaît pas bien le B, il faudrait vraiment aussi mettre beaucoup de bruit. Donc, en fait, il y a cette dépendance. Et en fait, on peut vérifier ça. C'est-à-dire... Alors, peut-être avant que je dise ça, une petite remarque. Jusqu'à présent, ça, ce n'est pas très, très utilisable en pratique parce que ça fait intervenir... La borne qu'on a ici dit que c'est contrôlé par les pertes qu'on utilise. Mais la partie qui est accessible, c'est ça et ça. Et on ne connaît pas la valeur du minimiseur, du minimum. Okay, on ne connaît pas la valeur du minimum de ces losses, donc en fait, on ne sait pas exactement quelle est cette borne. Mais sur des exemples simples ou pas si simples, en fait, par exemple, si on prend un dossier de mélange en 128 dimensions, ici, je vous montre des tranches sur deux dimensions, en fait, on peut mesurer, prenez simplement, ignorez cette courbe-là, on peut mesurer le Kullback-Leibler diversion sur ces exemples, et en fait, on voit effectivement que il vaut mieux mettre un petit peu de bruit et il y a un sweet spot. Comment on dit sweet spot ? Il y a une valeur optimale du epsilon qui fait qu'on minimise l'impact de l'erreur d'estimation sur l'erreur d'échantillonnage et qui est là. Okay ? Et de manière intéressante, puisqu'on estime le B et le S en utilisant les interpolants qui n'ont rien à voir avec les diffusions qu'on utilise pour faire la génération, on peut ajuster ce coefficient après l'entraînement. C'est-à-dire que toutes ces courbes ont été calculées avec le même B hat et S hat qui a été calculé avant. Okay. Je vais élaborer un tout petit peu sur ça sans vouloir aller trop dans les détails. Mais donc, je vais vous montrer un autre petit théorème qui est intéressant dans ce cas-là parce qu'il fait une connexion et peut-être c'est intéressant pour les gens qui veulent maintenant faire du transport un petit peu plus optimal. C'est-à-dire, si on prend... ça, c'est une autre formulation où, en fait, ici, on prend un interpolant qui est construit de sorte à ce que la mesure de base soit juste une mesure ponctuelle sur A0. Okay? Donc, il n'y a pas de choix de mesure. La mesure de base est triviale. C'est juste on prend un point. Et donc, on peut montrer que, si, dans ce cas-là, on peut construire cet interpolant avec un processus ici de Wiener. C'est pas très simple. On pourrait le représenter comme de manière uniquement la loi au temps t est importante. Donc on peut utiliser cet interpolant et on peut écrire une famille d'équations aux dérivées stochastiques avec un coefficient de diffusion qui peut être ajusté. Ok. Et dans ce cas-ci, il y a quelque chose qui est intéressant qui se passe, c'est que si on connaît le drift, donc la vitesse, on peut obtenir le score. C'est en utilisant la linéarité de la représentation et la linéarité aussi de l'espérance conditionnelle. Okay. Et donc, ça, c'est assez intéressant parce que, de nouveau, c'est un exemple dans lequel on peut ajuster les coefficients de diffusion. Et en fait, dans ce cas-ci, il y a un truc intéressant qui se passe. C'est que, malgré le fait qu'on ne connaisse pas la valeur de la perte au minimum, on peut quand même la minimiser sur epsilon. C'est-à-dire que on peut, si on regarde la divergence de Kullback-Leibler sur les mesures de chemin, on peut regarder donc la différence de ces mesures avec le processus exact et le processus estimé, et on peut la minimiser de manière explicite avec un coefficient de diffusion qui est celui-là, okay, qui est une formule complètement explicite, qui ne dépend ni de la vitesse, ni du score, ni de la distribution cible. Et de manière assez remarquable, je vais vous illustrer ça peut-être avec des exemples plus tard, en fait, il y a un lien, on obtient un objet qui est assez bien connu et que, par exemple, je pense, si vous étiez là pour le cours ou le séminaire de Valentin Desbortoli, il a discuté, c'est qu'on peut montrer que le processus qu'on obtient en utilisant ce coefficient de diffusion, en fait, c'est un processus de Vollmer. Et le processus de Folmer, c'est un pont de Schrödinger qui a sans doute été discuté par Valentin, mais simplement dans le cas où on va d'une mesure de point mass, donc d'une mesure atomique sur zéro et la mesure cible. Okay. Et ça, c'est un résultat. Alors, je ne sais pas si ce résultat, j'ai regardé dans la littérature probabiliste, je ne l'ai pas trouvé. Typiquement, le processus de Folmer, le processus de Schrödinger est défini de manière variationnelle, mais c'est une manière variationnelle différente. C'est minimisé, en fait, il y a un processus de référence qui est donné, et puis on minimise la Kullback Leibler divergence d'un autre processus qui doit aller vers la cible par rapport à ce processus de référence qui ne va pas vers la cible. Ici, c'est une approche complètement différente, mais qui arrive à la même chose, qui est simplement de dire, si on veut, on fait de l'estimation et on veut minimiser l'erreur d'estimation dans la génération ou dans l'inférence, eh bien, ce qu'on obtient, c'est un processus de Folmer. Donc, c'est une petite remarque mathématique, je pense, qui est intéressante. OK. Alors, maintenant, j'ai discuté ce formalisme et il a l'air peut-être un petit peu différent de ce que vous avez vu avec les processus de diffusion qui sont basés sur le score. Donc, je vais revenir, en fait, et en fait, je vais aller en arrière dans le temps. On va d'abord discuter de diffusion et puis on va aller vers les processus de débruitage. Okay? Ça, c'est un processus de débruitage, mais continu en temps. On va faire du débruitage non continu en temps après. Donc, je vous rappelle ce que c'est. Ça, c'est ce qui a été vraiment le papier qui a vraiment commencé les choses dans ce domaine. Okay? On bruite comme ça et on débruite. Et alors, en fait, on voit quand on fait ça comme ça qu'il y a un certain nombre de choses qui sont un petit peu... C'est pas vraiment un très, très gros problème en pratique, mais ça limite un petit peu l'utilité dans une certaine mesure, ou la versatilité, disons. C'est que comme on bruite, ça veut dire que la mesure de base doit toujours être gaussienne. Et comme on bruite avec une équation de Devel stochastique, typiquement, il faut aller jusque tant t égale l'infini pour avoir une gaussienne. Donc il y a un petit biais si on ne va pas suffisamment loin dans la diffusion. Okay, ça, c'est exponentiel, donc ce n'était pas très, très grave. Mais je veux maintenant vous montrer qu'en fait, ces processus, c'est un interpolant stochastique. Donc, il y a moyen de réinterpréter comme un interpolant stochastique. Alors, prenons un petit exemple, c'est un petit calcul qui est assez facile. Donc, je vais le faire. Supposons qu'on prend un processus de Ocean-Yonbeck pour définir le bruitage. Donc, c'est cette équation-là, dans laquelle, ça devrait être mu1. Donc, on prend une condition initiale, on va renverser le temps dans une minute. On prend la condition initiale qui est la mesure cible et on la passe dans ce processus de Ocean-Yonbeck. On peut écrire la solution de cette équation, et en loi, elle est égale à ça. En fait, on peut simplement représenter cette intégrale stochastique par un coefficient qui dépend du temps et une variable gaussienne. Alors, la loi, elle est la même pour tout taux fixé. Okay? Et ça montre effectivement que qu'est-ce qui se passe quand on bruite, ben, on prend le signal et on l'efface de manière exponentielle, et de manière exponentielle, on le remplace par du bruit. OK ? Alors, et donc, ce qui est fait en score-based diffusion, c'est d'utiliser ce processus renversé. Si on pense à interpolant, on oublie ça pour une minute, et on se rend compte simplement que si on change le temps, de sorte à faire un mapping de 0 infinity, l'infini à 1, 0, donc on renverse le temps, en prenant ce changement de temps-là, eh bien, ce processus-là, en loi, il est le même qu'un interpolant de ce type-là, qui est maintenant sur 0,1. C'est donc simplement un choix particulier des coefficients alpha et bêta. OK ? Mais une fois qu'on a fait ça, on peut appliquer toute la machinerie que je vous ai expliquée avant, c'est-à-dire qu'on peut apprendre le drift qui est associé à cet interpolant, on peut apprendre le score ou déduire le score du drift, et on peut dès lors échantillonner ça de toutes les manières qu'on veut, sans nécessairement devoir utiliser ce renversement du temps. OK ? Et en fait, peut-être que d'un point de vue pratique, ce n'est pas essentiel ce que je viens de raconter, sauf si la mesure de base, on veut qu'elle soit différente de la mesure cible. Mais d'un point de vue conceptuel, il y a quelque chose d'important qui s'est passé ici, et donc je veux insister sur ça. C'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand on fait du score-based diffusion, on mélange deux opérations quelque part. C'est que d'une part, on construit une mesure qui relie les distributions de base et de cible. C'est ce qui est fait avec ce processus-là, qui peut être réécrit comme l'interpolant. Et puis, on échantillonne ce processus en temps renversé en utilisant le même processus. Mais en fait, ce que le formalisme des interpolants montre, c'est que ces deux opérations sont vraiment séparées. Il faut, la manière dont on construit ce muté peut être fait comme ça, ou avec d'autres choix de alpha et bêta, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et une fois qu'on a fait ça, il n'est pas nécessaire de prendre la diffusion en temps inverse, donc de renverser le temps pour faire l'échantillonnage, on peut le faire de manière différente, avec la possibilité d'ajuster le coefficient de diffusion a posteriori pour minimiser l'impact de l'erreur d'estimation. Et donc ça, conceptuellement et peut-être pratiquement, c'est assez important. Je vais faire un... Je suis presque à la fin déjà parce que je vais faire après des applications, mais il y a un autre truc, une autre formule ou une autre formulation qui est importante, qui finalement, historiquement, est la première qui avait été faite, c'est... et je vais la reformuler dans le thème des interpolants. Donc si on imagine l'interpolant comme étant une observation bruitée d'une donnée, c'est-à-dire, elle est bruitée parce qu'on a multiplié par bêta et on a ajouté ce bruit gaussien. Imaginons qu'on ait ça. Alors, si on prend une formulation bayésienne sur ça, on pourrait se demander quel est l'estimateur qui est bayésien optimal, l'estimateur bayésien optimal de la donnée si on se donne l'observation. Et cet estimateur optimal, qui est Stein and Biasless estimation, sure. Et en fait, simplement, l'espérance conditionnelle de X1 à IT. Okay? Et ça, ça peut être exprimé en termes du score comme ceci. Donc, il y a une formule explicite, si on connaît le score, qui permet de débruiter et d'obtenir quelle est l'espérance conditionnelle de la donnée si on conditionnait sur une observation. Et comme je dis, c'est Bayes optimal. Donc, en principe, on peut utiliser ça pour faire du débruitage. Alors, les gens avaient réalisé qu'en fait, il vaut mieux faire du débruitage par étapes. Alors, il y a une forme, parce que ça, en fait, voilà. Donc, alors, en particulier, ça c'est Aero Shimon, celui qui a été mentionné dans la classe, la dernière classe de Stéphane. Il y a une formule équivalente qu'on peut faire où on peut faire du débruitage par étapes, qui est simplement, c'est une formule qui est la même que ça. Et donc, en fait, si on itère ça sur une grille en temps, donc on prend un processus qui a été fort bruité et on le débruite par petites étapes au lieu de le faire dans un coup, on obtient ce qui s'appelle les denoising diffusion probabilistic model. Alors c'est important de réaliser que si la grille est fixée, ce que cette opération fait n'est pas un modèle génératif du type que j'ai discuté. Ça génère des points, ça génère des échantillons, mais ces échantillons ne sont pas garantis d'être les échantillons de la cible. Parce qu'en fait, ce qu'on calcule finalement, c'est une séquence d'espérance conditionnelle, ce qui n'est pas la manière dont on veut échantillonner une mesure de manière typique. Mais il y a une petite propriété qui est assez intéressante, et c'est, je ne vais pas vous la démontrer, mais c'est assez facile à démontrer, c'est qu'en fait, si on fait le débruitage de manière infinitésimale, et donc ça veut dire qu'il faut faire de manière infinie le nombre de steps, ben, ce qu'on obtient en fait, c'est précisément l'ODE, l'équation en dérivée ordinaire que je vous ai expliquée au début de la classe. C'est-à-dire qu'il y a un petit truc qui est assez facile à montrer, c'est que si on calcule la dérivée en temps de cet objet-là, quand t tend vers tau, ce qui est exactement ce qui a été fait là, ben, ce qu'on obtient c'est le B. Et en fait ça veut dire que si on fait du débruitage infinitésimale, c'est une manière d'intégrer l'équation de le flot de probabilité que je vous ai expliqué avant. Et donc, dans cette limite-là, on obtient un modèle génératif exact. OK ? Alors, bien sûr, en pratique, il faut toujours faire ça, mais l'intérêt, de nouveau, de regarder ça comme ça, c'est que cette grille, on peut la mettre a posteriori. On peut contrôler l'erreur si on apprend le score de manière, ou le drift de manière globale. N'empêche, c'est une manière intéressante parce que ça donne une manière de construire des intégrateurs pour l'ODE qui sont non triviaux. Ça, c'est, si on voit ça comme un intégrateur, c'est pas un intégrateur qui est facile à dériver ou qui est naturel si on fait, par exemple, forward Euler. OK, voilà. OK. Alors maintenant, je vais vous montrer quelques applications pour terminer. Alors, d'abord, juste pour... C'est que ces méthodes, en fait, on peut les mettre à l'échelle. C'est-à-dire avec mon collègue Xianying Chie, qui en fait est quelqu'un qui vient de Computer Vision, Il a développé des gros réseaux de neurones qui s'appellent diffusion transformer, qui permettent de représenter le score bien, ou le drift. Et donc, si on utilise une machinerie qui est suffisamment, je vais revenir sur ça tout à la fin, suffisamment puissante pour apprendre le score, il y a suffisamment de données, on peut en fait générer, toutes ces images sont des images fausses. Donc on peut générer des images qui ont vraiment une qualité qui est assez impressionnante. Et c'est assez vieux, ça, déjà. Et en fait, la technologie que je vous ai expliquée maintenant, qui s'appelle, c'est Stochastic Interpolation, j'aurais dû mentionner ça avant, mais il y a d'autres papiers qui avaient fait ça en même temps, qui l'ont appelé Flow Matching, et ça c'était des gens de Meta, et d'autres papiers qui s'appelaient Rectified Flow, ça c'est des gens de Dartmouth, maintenant de Austin. En fait, cette technologie est maintenant ce qui est utilisé par Meta ou par Stable Diffusion, par beaucoup d'algorithmes, précisément parce que c'est plus flexible que les diffusions. Donc, si vous allez sur les pages web, par exemple, de Meta, et vous regardez quel est le modèle génératif qu'ils ont pour faire des images ou des films, ben, vous allez voir qu'il y a moyen de faire des trucs assez impressionnants avec ça. OK. J'ai deux petits exemples rapides, et après, je vais faire quelque chose d'autre, si j'ai un petit peu de temps, qui est que pourquoi est-ce que c'est utile d'avoir une distribution de base qui est plus sophistiquée que la gaussienne. Tout ce que j'explique ici, on pourrait le reformuler en fait, ou en utilisant score-based diffusion, mais c'est juste plus facile d'y penser de cette manière-là. Donc c'est pour ça que... Alors voici un premier problème. Supposons qu'on ait des images bruitées. Et la tâche, c'est qu'on voudrait débruiter l'image. Okay? Donc les échantillons de la base, c'est ça. Les échantillons de la cible, c'est ça. Ben, je viens déjà de le dire, dans ce cas-ci, c'est beaucoup plus naturel de prendre ces échantillons-là comme étant la base plutôt que des échantillons gaussiens, parce que c'est ça qu'on veut transporter vers les échantillons de la cible. Et aussi, c'est beaucoup plus naturel si ces échantillons viennent en paire, c'est-à-dire on a une image, dans les données d'entraînement, on a une image à haute résolution et une image à basse résolution, ce serait un petit peu idiot de les mélanger, de les tirer de manière aléatoire, il faut les prendre en paire. Et ça veut dire qu'il faut les coupler. OK? Et donc, si on les couple, en fait, ce qu'on obtient, c'est un interpolant spécifique qui a finalement beaucoup moins de travail à faire que s'il devait prendre du bruit gaussien et le transformer sur ça. Parce que ce qu'il doit faire, c'est simplement pousser cet échantillon-là sur cet échantillon-là. Et voilà ce que ça donne si on teste ça sur ça, c'est après l'entraînement sur une donnée qui n'a jamais été qui est sur le test set. Ça, c'est d'autres exemples de voir comment ça marche. OK? Il y a une autre tâche qui est assez... c'est la même chose, je voulais la montrer pour une autre raison. Ça, c'est une tâche où simplement, il y a des images masquées et non masquées. De nouveau, il faut coupler. Et la mesure de cible, ça doit être les images masquées. La mesure cible, c'est les images démasquées. Et la mesure cible, c'est les images masquées. OK? Et voilà ce que ça donne sur ce type de truc. Donc ici, les masques sont mis de manière aléatoire. Au moment de la génération, où sont les masques et données, c'est une espèce de in-painting, mais la position n'est pas connue à l'avance. Okay? Et de nouveau, ça, c'est le genre. Donc on voit qu'en fait, ça génère de manière remarquable des images qui sont assez réalistes. Okay? Il y a des trucs intéressants qui se passent. Ce sont des modèles génératifs, donc c'est des modèles probabilistes. Quand on refait les choses, on peut obtenir des échantillons différents. Okay? Voilà un exemple qui est... ça, c'est l'input, ça, c'est le truth qui était dans les données, mais qui n'a pas été vu. Et ça, c'est ce que le modèle génératif prédit. Et comme vous pouvez le voir, la différence entre cette image-là et cette image-là, il y en a plusieurs, bien sûr, mais il y en a une qui est évidente, c'est que ce chien a l'œil fermé. OK? Et c'est assez remarquable parce qu'en fait, cette image n'est pas complètement irréaliste et elle est consistante avec les données. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si l'œil est fermé ou pas, donc le modèle génératif, il doit décider, et bien il a décidé de faire ça. Ce que ça veut dire, c'est que ces hallucinations dont il faut vraiment se méfier quand on utilise des modèles génératifs, ben, dans un certain sens, elles sont aussi utiles. L'hallucination, finalement, c'est un peu la capacité créative de ces modèles. Alors, on voudrait qu'ils hallucinent sur des choses où ils peuvent halluciner, c'est-à-dire qu'ils peuvent changer l'œil, un œil ouvert en un œil fermé, et pas faire des trucs absurdes qui seraient, par exemple, de mettre des ailes sur le chien. OK? Donc, c'est ça qui... Voilà. Alors, maintenant, assez brièvement, je vais plus ou moins... J'ai encore quelques minutes. OK. Donc, il y a une chose qui peut être faite, c'est que tout ce que je vous ai raconté peut être généralisé de manière presque triviale en faisant de la génération conditionnelle. C'est-à-dire si on a des triples dans lesquels il y a une variable de plus qui a été ajoutée, qui sont ces variables conditionnelles. Et ce qu'on voudrait faire, en fait, c'est générer des échantillons de la mesure de x1 conditionnée sur xi, c'est-à-dire cette mesure-là. C'est très facile à faire. Il suffit d'inclure la variable conditionnée dans le score et dans la vitesse quand on la prend. Et si on a les échantillons, on peut le faire. Et donc, ce que ça permet de faire, c'est de faire de la génération conditionnée, donc le minimiseur est là, sur des variables. Alors, pourquoi est-ce que ça, c'est utile? C'est utile parce que ça permet, en particulier, de faire la chose suivante. Et ça permet de faire du forecasting. Je vais juste expliquer ça parce que c'est un petit truc intéressant. C'est, suppose qu'on a une série en temps qui est donnée. Et imaginons que c'est une série en temps qui est stationnaire, donc il y a une mesure invariante. Okay? Et ce qu'on voudrait faire, en fait, c'est pas sampler, échantillonner la mesure invariante, qui serait un problème déjà qui est intéressant, mais faire quelque chose d'un petit peu plus compliqué, c'est de sampler la mesure invariante conditionnelle sur donc conditionnelle dans, on veut la sampler dans le futur, conditionnelle sur une information présente ou dans le passé, c'est-à-dire quelques variables qui sont, peuvent être des variables incomplètes. Ok, je vais vous montrer ça dans une minute, mais c'est, quand on fait du, par exemple de la météo, c'est le problème qu'on voudrait avoir. On voudrait savoir si on peut prédire le temps de demain si on a des données partielles sur la météo aujourd'hui. Okay. Ça peut être fait. Je vais vous montrer deux exemples. Il y en a un qui est assez. J'aime bien parce que c'est de nouveau, ça montre un peu les capacités remarquables de ces réseaux de neurones. C'est pour calculer c'est pour faire des films. Alors, il y a des algorithmes maintenant comme Sora et d'autres, OpenAI, qui font des films, mais en fait, ils les font en bloc. Il n'y a pas vraiment de truc génératif. Ici, on le fait de manière forecasting, c'est-à-dire ce qu'on donne, en fait, c'est on donne des films. Et ce qu'on apprend, c'est qu'on dit la condition, c'est quelques frames, quelques images du film dans le passé, et qui sont utilisées pour entraîner le modèle pour qu'il prédise le next frame, ce qui se passe après. Okay? Et donc, une fois que ça a été fait, on peut faire un rollout, c'est-à-dire on peut utiliser ce qui a été prédit pour le mettre maintenant dans le conditionnement, pour prédire ce qui se passe après, mettre ça dans le conditionnement, et donc on peut continuer le film comme ça. Et donc voilà ce qui se passe, par exemple, si ça, quand on a fait ça, voilà le film original et voilà le film généré, ces deux frames-là sont les mêmes, c'est la condition, et puis après on génère ça, puis on utilise ça pour la condition pour générer ça, ça pour la condition, etc. Okay, c'est un peu plus compliqué que ça, mais essentiellement c'est ça. Et donc en fait ce qui se passe, c'est qu'on génère un film qui est un film qui n'est pas le même que ce qui était c'était pas dans les données d'entraînement, mais c'est un film différent. Et je vais insister sur ça dans une minute, et après je vais... C'est plus facile de voir ça quand on regarde le film, en fait, de ce qui se passe. Donc ça, c'est le film réel. Donc les deux premiers frames sont communes. OK ? Et c'est donc, quand je dis réel, ça veut dire que c'est celui qui était dans les banques de données. Et ça, c'est les films qui sont générés par rollout. Et comme c'est de la génération conditionnelle, mais probabiliste, vous voyez qu'en fait, les films ne sont pas complètement absurdes. Si vous regardez bien, il y a des trucs un peu bizarres, mais il n'y en a pas beaucoup, en fait. Ils bougent de la bonne manière, ils ne changent pas de forme, ils ne changent pas de couleur, etc. Et ils sont différents. C'est-à-dire, ils prennent une branche qui est un petit peu différente parce que c'est de la génération probabiliste. OK ? Je vais vous montrer un problème qui est plutôt relié maintenant à la météo, mais ça, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant, par exemple, quand on conduit... Ce que vous devez faire, c'est il y a des petits blocs comme ça qui sont les voitures autour de vous, et vous faites ce qu'on fait tous, c'est un petit peu de la génération probabiliste, c'est-à-dire on estime quels sont les scénarios possibles et on réagit en fonction. Ok, est-ce que cette voiture va faire ça? Quelle est la probabilité? Est-ce que cette voiture va faire ça? Etc. On fait ça inconsciemment, mais c'est okay. En voiture, même quand on marche dans une foule. Ça, c'est le genre de choses que voilà. Allez. Ok. Alors peut-être dernier exemple, j'avais un peu plus de trucs pour vous, mais je vais passer. Navier-Stokes, ça c'est des dynamiques des fluides, donc c'est utile pour la météo, a priori. Donc, si vous n'avez pas vu Navier-Stokes, je ne vais pas avoir le temps de vous l'expliquer, mais c'est simplement cette équation qui décrit les écoulements. Ici, c'est en 2D avec des conditions périodiques et avec un forçage aléatoire dans des conditions où on sait que l'EDP a une mesure invariante unique. Ça, c'est les travaux de Martin Hare et Jonathan Mattingly. Et donc, le problème qu'on va faire ici, c'est faire le forecast à full resolution à un temps futur si on donne de l'information au temps présent, peut-être en low resolution. L'intérêt de ces trucs, c'est qu'on peut du coup vérifier. Donc voilà, ça c'est ce qui se passe, ça c'est low res data, ça c'est un exemple de forecast. On peut dans ce cas-ci, on préfère ça avec des images aussi, mais dans ce cas-ci, on peut en particulier vérifier que les prédictions qu'on fait sont physiques, au moins par un certain nombre de critères qui sont nécessaires mais pas suffisants. Donc en particulier, on peut regarder le spectre d'anisotropie. Dans les données, en fait, le spectre, il est tronqué là parce qu'il n'y a pas de, il y a rien sur les wave vectors, les nombres d'ondes qui sont au-delà de ce qu'on a coupé ici. Mais on peut vérifier que, en fait, le processus génératif génère des images qui non seulement ont l'air de ressembler aux solutions, mais en fait, elles ont le même spectre. C'est déjà une bonne chose. Comme je dis, c'est nécessaire sans être suffisant. Ce qui est intéressant ici, et c'est ça que je veux insister sur, peut-être, c'est la dernière chose, puis après je vais passer quelques slides, c'est que c'est un cas dans lequel avoir de la génération probabiliste est très important, parce que ce système est un système qui est stochastique ou chaotique, et ça veut dire que si on se donne cette information-là, il y a plusieurs solutions possibles au temps futur. Alors si on faisait de la régression, on calculerait par exemple le conditional mean, donc la moyenne conditionnelle de ces champs de vecteurs conditionnés sur cette information. Mais si on fait ça, en fait, on peut le faire soit sur les données réelles, soit sur le forecast, et on voit qu'on obtient la même chose. Donc, ça veut dire que le forecast est précis de cette manière-là aussi. Mais on voit que l'information qui est ici est très, très mauvaise, en fait, parce qu'on a fait des moyennes sur des trucs, donc on a perdu l'information utile qui était ici. Si vous voulez faire une analogie avec weather forecast, vous voulez savoir demain s'il y a du soleil sur la rive gauche et il pleut sur la rive droite ou inversement. Vous voulez pas avoir la moyenne de ces deux états parce que ça va être un état où il pleut un petit peu moins mais il ne s'est pas ensoleillé et c'est faux partout. Ok ? Donc ça c'est l'idée de ces trucs-là. Et effectivement, Stéphane a dit qu'il va y avoir une journée. En fait, cette technologie, c'est ce qui est utilisé par Google et Nvidia pour le weather forecasting. GenCast, qui est une évolution sur le GraphCast, c'est quelque chose qui fait de la génération probabiliste. Ok, j'arrive à la fin de mon talk, donc je vais devoir passer quelque chose. J'avais préparé deux autres choses qui étaient des applications un petit peu plus physiques. Il y a moyen d'utiliser ces méthodes, en fait, pour faire de l'analyse de systèmes non équilibres. Parce que dans les systèmes non équilibres, typiquement, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que ces films, je les montre dans le bon sens du temps où je les ai renversés. Ça c'est the arrow of time. Ok, le sang. Et comme ces méthodes permettent de calculer les scores qui permettent de renverser les diffusions, ça permet en fait de distinguer si on va dans le bon sens du temps ou pas. Donc ça permet de faire de la dynamique de non-équilibre, de la mécanique de non-équilibre, mécanique statistique de non-équilibre. Et ça permet aussi, mais ça c'est plus compliqué, donc je suis désolé que j'aille un petit peu vite, ça permet aussi d'assister le Monte Carlo. Ok ? Je ne vais pas discuter du tout ça, peut-être juste pour faire une remarque qui est assez importante. C'est que moi, je viens d'un domaine qui est plutôt le scientific computing, dans le calcul scientifique, dans lequel, typiquement, on veut résoudre des équations plutôt que dériver les équations à partir des données. Et donc, ça, on peut utiliser les modèles génératifs dans ce cas-là, mais c'est un problème qui est différent d'une manière fondamentale de l'apprentissage machine classique. C'est précisément que ce sont des problèmes dans lesquels on a des modèles mais pas de données. À l'inverse des problèmes classiques d'apprentissage machine où on a des données mais pas de modèles. Okay? Alors, ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Faire de l'échantillonnage comme ça, parce qu'il y a un problème d'œuf et de la poule. On n'a pas d'échantillons pour commencer les trucs, donc il faut avoir ce qui s'appelle des warm starts. Mais ça a un avantage énorme, c'est que ça permet de faire comme on a un modèle, on peut vérifier les données. Et donc, on peut générer autant de données qu'on veut parce qu'on peut toujours les vérifier ou les valider. Et donc, ça veut dire que c'est un domaine dans lequel il y a verifiable AI. On peut vérifier l'intelligence artificielle, ce qui, je pense, est très, très utile et un problème assez, assez pressant. OK, alors, j'avais quelques exemples, mais je vais les passer. Je vais juste, si j'ai une minute, finir peut-être avec deux slides qui relient un petit peu ce que Stéphane avait dit, c'est que il y a quelque chose qui s'est passé dans ce talk qui est assez bizarre. C'est, quelque part, j'ai complètement oublié le fait que, ou j'ai pas beaucoup parlé du fait qu'on doit utiliser des gros réseaux de neurones pour faire ces calculs. Mais que même si on utilise des gros réseaux de neurones, c'est pas a priori clair pourquoi ça fonctionne. Parce que il y a quelque chose que je suppose que Stéphane a beaucoup discuté, qui s'appelle The Curse of Dimensionality. C'est quelque chose que c'est Bellman en 61 qui a expliqué ça, et qui dit essentiellement que si on veut faire du calcul en grande du calcul numérique en grande dimension, ça ne devrait pas être possible, parce que le coût explose de manière exponentielle. Ok. Si on met une grille à deux points en une dimension, on a besoin de deux points, il en faut quatre en deux dimensions. En mille dimensions, il en faut ce nombre complètement astronomique. Les problèmes que je vous ai montrés sont, si on fait un compte de dimensions naïf, beaucoup plus élevé que ça. Et deux points, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, a priori, ça ne devrait pas être possible de... Si on prenait des cas adversarial, ce ne serait pas possible d'apprendre. Et donc, ça veut dire qu'il doit y avoir de la structure dans ces données, et c'est ça qui permet... la dimension effective de ces modèles n'est pas la dimension naïve. Mais comment la calculer, ce n'est pas complètement clair, parce que ce n'est pas nécessairement low manifold ou un truc, ça peut être beaucoup plus compliqué, ça peut être des modèles hiérarchiques comme Stéphane a discuté. Donc ça, c'est vraiment des questions qui sont très très importantes, que je n'ai pas du tout abordées, mais c'est des questions qui sont assez pressantes. Et ça, c'est le dernier slide que je vais vous montrer. C'est que l'apprentissage machine fait un peu des miracles, mais il y a un coût associé, et le coût n'est pas très très bon, dans le sens que voilà, il y a deux graphes ici. Ça, c'est en fait comment, la précision augmente quand on augmente le nombre de données dans ces. C'est pour un problème différent, mais c'est pas très très important. Et donc, ce que vous voyez en fait, c'est que quand on prend plus d'exemples, et cette échelle-là, elle est logarithmique ici. En fait, ça améliore les choses, mais pas d'une manière dramatique. Ok ? Donc, il faut beaucoup de données. Donc ça veut dire qu'il faudrait organiser les données peut-être un petit peu de manière différente si on veut faire les choses mieux, parce que ça veut dire qu'on ne les exploite pas de la manière qu'il faudrait. Ça, ça fait un peu plus peur encore. Ça, c'est en fait le compute, combien il faut mettre de puissance de calcul pour arriver à faire les calculs de ces modèles qu'on utilise tous maintenant, comme ChatGPT ou Claude, etc. Et en fait, ici, c'est là qu'il y a une échelle logarithmique, et donc ce qu'on voit, c'est que ça augmente de manière exponentielle, avec un taux de croissance qui s'est multiplié par 4 tous les ans. C'est pas très... ça peut pas durer comme ça pendant trop longtemps, parce que déjà, cette pente-là, c'est une croissance exponentielle qui est plus forte que celle de la loi de Moore, par exemple. Okay? Et donc ça veut dire qu'il va falloir faire quelque chose de ce côté-là aussi. Et c'est là que, bien sûr, développer des algorithmes ou des méthodes mathématiques plus poussés sont utiles. Ça, c'est un petit peu l'équivalent de quelque chose que Stéphane avait discuté, qui montre que pour l'instant, si on ne met pas la bonne capacité, on n'a pas les bonnes choses. Donc ça, c'est ce qui se passe quand on utilise ces transformers pour faire de la génération d'images. Et en fait, on entraîne, tout est pareil à part qu'on entraîne des réseaux de neurones qui sont un peu plus petits. Okay? Et de manière intéressante, ce que ça génère à partir du... Donc ils sont entraînés de manière... indépendante. Ce qu'on voit en fait, c'est que quand on prend un bruit donné et qu'on le passe, on obtient des choses qui, si le réseau de neurones n'était pas suffisamment expressif, c'est ça, et s'il devient plus expressif, c'est ça. Et donc, il faut suffisamment d'expressivité pour avoir des bonnes images. Ce qui est assez... Mais le côté qui est remarquable, c'est que ces images-là ne sont pas complètement différentes. Il y a une espèce de gradation qui veut dire qu'en fait, de nouveau, c'est cet aspect que Stéphane a un petit peu discuté, on dirait qu'il y a une généralisation implicite qui est faite, qui fait que le score ou le drift qui a pris, en fait, il converge vers quelque chose qui a l'air d'être pas la mémorisation des données. Ça, c'est une autre illustration de ce problème. Ok, alors, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui, j'avais quelques autres trucs. Je ne sais pas si c'est enregistré, mais il y a toute une série de papiers, je suis ravi de les... Je ne sais pas si je dois les montrer ici... On peut simplement revenir sur ce truc-là. Si vous avez soit des questions, qu'on pourrait les poser maintenant, soit envoyer par email et je vous enverrai les papiers. Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.